panneau.
Fréquence Terre.
Sur ce panneau de Fréquence Terre, en partenariat avec Féminin Bio, nous retrouvons Stéphanie Jaroux de Féminin Bio. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Et nous allons parler de maison écologique avec notre invité, votre invité, Esra Tat. Je n'écorche pas votre nom.
Non, c'est parfait.
Esra Tat, vous êtes responsable de la communication et du développement pour le cabinet d'architecture Terracité. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et donc tout de suite, nous allons parler de maison écologique, Stéphanie.
Oui, bonjour Esra.
Bonjour.
Alors, ravie de vous recevoir. C'est vrai que on est sur Planète Durable, sur le salon de l'éco-consommation. Alors, un grand point important pour les auditeurs, pour tous les gens qui veulent effectivement construire en écolo. Les gens s'intéressent de près à l'écologie également dans leur maison, donc qu'il s'agisse de construction ou de rénovation. C'est un point un petit peu clé. Alors, on va parler avec vous de maison écolo. D'abord, Esra, qu'est-ce que c'est qu'une maison écolo ? Parce qu'on entend beaucoup de choses là-dessus. Qu'est-ce qui est écolo ? Les matériaux, les peintures, l'isolation ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, effectivement, depuis quelques années, principalement depuis le Grenelle de l'environnement, on parle...
Un petit problème technique. Esra Tat est toujours parmi nous, mais c'est son micro qui ne marche pas. Nous allons voir ce qu'il est possible de faire, sinon...
Voilà, on va changer de micro.
C'est bon ?
Voilà.
Ok. Donc je disais, oui, effectivement, un terme un peu valise, une expression un peu valise, difficile à définir. Aujourd'hui, dans l'esprit de la plupart des personnes, la maison écologique fait référence à de la performance énergétique. Et c'est tout à fait normal parce que le Grenelle de l'environnement a vraiment accentué sur les économies d'énergie. On trouve chez Terracité que c'est une vision relativement réductrice parce qu'au-delà des performances énergétiques, de l'économie, il y a la vie et l'impact de cette maison sur l'environnement. D'où une vision un petit peu plus large qui serait une maison écologique, une maison adaptée à son environnement, donc ce qui fait référence à l'architecture bioclimatique, mais aussi adaptée à ses occupants et en limitant l'impact sur l'un et sur l'autre.
Alors c'est vrai qu'on oublie, on pense souvent effectivement à une maison qui respecte l'environnement. En revanche, on oublie beaucoup les gens qui habitent dans la maison. C'est un petit peu les grands oubliés et c'est ce qui fait que quand on se dit « tiens, on va faire un projet de maison écolo », les gens commencent à trouver ça très compliqué, à se dire « mais mon Dieu, que vais-je devoir faire pour respecter l'environnement et pour autant vivre quand même de façon tout à fait normale ?»
Alors, effectivement, je pense qu'on a tous un petit peu déversé les professionnels du métier dans la technique parce que c'est plus rassurant de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît, donc la technique. Remettre l'usager, donc l'occupant, au cœur de l'architecture écologique et de la construction écologique, c'est également travailler sur prendre en compte en fait les nouveaux modes de vie. Aujourd'hui, une maison conventionnelle, c'est pièce principale, séjour, chambre, bureau, point barre. Et en fait, avec l'habitat écologique, on a réussi à s'ouvrir à d'autres problématiques, qui est de se dire on va aussi s'adapter à des nouveaux modes de vie, le télétravail, la famille monoparentale, etc. Donc, des professionnels comme nous, lorsqu'on aborde un projet de construction qui soit individuel ou collectif, parce qu'on a ces deux métiers-là, on va déjà poser la question de qui va habiter ici ? Qui va loger là-dedans et quelles vont être leurs problématiques. Et si on n'a pas de contact avec eux, comme ça arrive parfois quand on fait du logement social, c'est essayer de construire quand même pour les gens qui vont habiter dedans.
C'est-à-dire que la maison doit être adaptée à ses occupants, mais alors chaque maison est unique finalement.
Exactement. Et c'est ce qui aussi explique la notion du coût. On nous parle souvent d'une maison écologique.
Ça c'est cher.
Voilà, c'est cher. Alors déjà, le premier point, le coût. C'est, je crois, une vision un petit peu ancienne qu'on est en train de dépasser. On parle plutôt d'investissement et de retour sur investissement. La réflexion sur les économies d'énergie a poussé les personnes aussi à se dire l'euro que j'investis en plus, qu'est-ce qu'il me rapporte ? Donc, on parle un peu plus d'investissement et pas de coût. Mais effectivement, il y a un delta, je ne vous le cache pas, entre une maison conventionnelle et une maison écologique avec des matériaux réfléchis qui ont un faible impact sur l'occupant et sur l'environnement. Il y a un delta. Mais le delta, c'est...
Un delta, c'est un différentiel.
Un différentiel de coût. Mais il s'explique, je veux dire, schématiquement par trois choses. Les coûts de conception, donc, et ce que vous disiez exactement, le fait qu'on s'adapte, donc on répond à des besoins spécifiques. Deuxième point, ça va être la nature des matériaux. Je ne stigmatise pas cet isolant-là, mais le polystyrène représente 35% des chantiers en France. Donc clairement, il y a une économie d'échelle que n'ont pas des isolants plus écologiques comme le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, etc. Et le dernier point, et qui est là, remet aussi l'occupant au cœur de la problématique, c'est de se dire qu'on intègre dans le coût de la maison, donc dans l'investissement, les externalités négatives.
Aujourd'hui, c'est-à-dire
c'est
alors, si je prends un cas parallèle, c'est comme si en payant un produit alimentaire bio, vous disiez « je paye bio parce que j'intègre dans le coût de ma consommation l'impact sur l'environnement ». C'est ce qu'on appelle les externalités qui peuvent être positives ou négatives. Dans le bâtiment, si vous utilisez des matériaux qui sont très consommateurs en énergie pour produire ces matériaux, comme c'est le cas de la plupart des produits synthétiques, bah, vous ne supportez pas le coût. Et finalement, c'est les autres, la société humaine, civile, qui supportent les coûts de votre choix personnel. Et le fait de choisir des matériaux qui respectent cet aspect-là, bah, effectivement, ça augmente le coût, mais il y a en face quelque chose. On ne paye pas pour payer, finalement.
Alors, juste pour revenir sur les matériaux, parce que c'est quand même un point essentiel dans la construction, est-ce que vous pouvez, comme ça, en quelques minutes, dresser un petit peu le panel des matériaux qui ont le vent en poupe, les matériaux écolos qui ont le vent en poupe, pour nous donner un petit peu une idée, enfin pour donner une idée aux auditeurs de ce qui se fait en termes de matériaux?
Alors, les matériaux qui ont le vent en poupe ne sont pas forcément ceux qui sont le plus utilisés, mais... Effectivement, on va avoir donc les matériaux d'isolation et les matériaux purs de construction. Sur les matériaux purs de construction, le bois est très à la mode, même s'il représente en réalité que moins de 5% des constructions actuelles. Mais il attire. Il va y avoir le bois, puis il va y avoir tout ce qui va être les briques, terre cuite, terre crue, les briques monomures, qui ont l'avantage d'être un mur isolant et porteur. Donc là, il y a aussi une réflexion sur le coût. Et à côté de ça, on va voir sur les isolants, et c'est vraiment là le vrai foisonnement de produits attractifs. On va avoir la ouate de cellulose, qui est du papier recyclé. Issu en fait en général du recyclage des journaux, qui offre un intérêt au niveau du coût, donc vraiment en train de se démocratiser. On va avoir les fibres textiles recyclées comme l'isolant métis, et puis les circuits courts qui font un petit peu notre fierté en France, comme le chanvre et la paille.
D'accord. Et est-ce que tous ces matériaux sont disponibles facilement? Votre cabinet, donc un cabinet spécialisé, un Terracité sur l'architecture écolo, vous avez facilement accès à ces matériaux, ou du moins les experts maîtrisent facilement ces types de matériaux, ou on est encore sur des niches?
Je vais être franche, on est encore sur des niches. Mais il y a une claire évolution, alors dans le sens où donc Terracité existe depuis 6 ans. Hier, on a fêté notre 6e anniversaire.
Bon anniversaire, alors.
Merci. Et en réalité, c'est le 8e, dans le sens où de 2003 à 2005, on était sous forme associative. Donc, je vois une claire différence entre les premiers chantiers où, sur des notions simples comme la peinture, on sait galérer, clairement. On n'a pas trouvé de personnes qui voulaient poser ce type de matériaux. Donc, sans parler d'isolant, c'était à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a une facilité, parce qu'il y a un intérêt, puis un intérêt économique aussi. Même les grands se lancent dans les isolants écologiques. Donc, ça se démocratise lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, les isolants écologiques, c'est 6% du marché des isolants. Donc, voilà, ça avance. Il y a une progression claire à deux chiffres, il faut souligner.
Est-ce que l'offre est suffisante pour répondre à la demande ?
Sur certains matériaux, non. Mais ensuite, on va s'ouvrir au marché européen. Notamment sur les fibres de bois, en fait, les premières marques étaient allemandes. Donc, on pourra répondre à la demande. J'espère qu'elle augmentera, cette demande.
Les Allemands sont en pointe. Qui sont les pays en pointe en Europe sur ces questions d'isolants écologiques
ou de matériaux.
De matériaux en général.
De matériaux. Du coup, je vais rebondir aussi par rapport au bois. Ça va être plutôt les pays Allemagne, Suisse, parce que eux, après le premier choc pétrolier, ont pris des mesures un peu plus restrictives que la France. Donc ils ont quelques années d'avance, clairement. Mais on est en train de les rattraper avec les différentes réglementations qu'on met en œuvre, même si bon, on est toujours en retard, mais on est en train de les rattraper. Donc il va y avoir l'Allemagne, la Suisse, et après les pays scandinaves. Et ce qui explique aussi aujourd'hui le développement de la maison de bois se fait aussi en grande partie avec des filières qui ne sont pas françaises, mais qui sont norvégiennes, en tout cas scandinaves.
Alors justement, j'allais vous poser la question parce que la maison de bois est une maison effectivement très plébiscitée. Finalement, beaucoup de gens veulent construire leur maison de bois parce que c'est assez facile. Finalement, quatre pans de mur et l'affaire est jouée. Mais est-ce qu'elle est vraiment écolo, cette maison de bois ?
Je vais m'attirer les foudres des filières professionnelles. Pour être honnête, le bois est un matériau écologique parce que c'est le seul matériau qui absorbe du CO2. Donc, on ne peut pas lui enlever ça. Ensuite, les effets d'annonce plus ou moins avérés qu'il y a eu sur la filière bois a fait que beaucoup de professionnels se sont lancés sans être tout à fait regardants sur l'origine du bois. Expliquez-moi la logique de faire construire une maison bois si le bois n'est pas certifié, donc il ne vient pas de forêts gérées durablement. Parce que le bois, c'est renouvelable si on le renouvelle. Si personne ne replante derrière, on n'avance pas. Donc, quel est l'intérêt de construire en bois si le bois n'est pas issu de forêts gérées durablement et s'il vient de l'autre bout du monde? Et aujourd'hui, on n'a pas encore cette sensibilité chez ceux qui veulent faire construire bois. Ils veulent construire bois parce qu'effectivement, c'est rapide, perçu comme plus rapide. Les chantiers sont propres, ce qui change beaucoup par rapport à nos chantiers humides en France avec les mélanges qu'on est obligé de faire. Donc, j'ai envie de dire, oui, c'est écologique, clairement. Si vous allez vers la performance, vous faites une maison BBC ou passive en bois. Et si vous faites attention à l'origine du bois.
Aujourd'hui, en France, donc les gens qui veulent construire très clairement une maison en bois, ils s'adressent à qui et comment ils peuvent s'assurer de la traçabilité du bois, de là où il vient, comment les forêts sont gérées? Est-ce que tout ça est pris en compte? Est-ce que le consommateur, finalement, est tenu informé ou c'est encore très, très nébuleux?
Nébuleux et dépendant de la bonne volonté du fournisseur, clairement. Au niveau de nos métiers, donc chez TerraCité, on travaille autant pour le particulier, sur l'habitat individuel ou semi-collectif, donc en rénovation et construction, mais on travaille aussi pour les collectivités. Et on va faire du logement bois ou bois béton mixte pour 15, 20, 30 logements. Donc je le vois avec nos fournisseurs, certains ont une démarche de transparence claire. On leur demande s'ils ont des labels. Et s'ils ont des labels, par exemple le label FSC, on sait que...
Il y en a d'autres ou... Il y a d'autres labels?
Alors, il y a FSC, PEFC, mais c'est vrai que l'un et l'autre sont critiqués pour des raisons un petit peu techniques. Donc voilà, déjà voir s'il y a un label, c'est une question de traçabilité. Et ensuite, les gros fournisseurs sont plus regardants sur ces questions-là. On va dire les jeunes petits fournisseurs sont peut-être moins outillés. Bon, ensuite, voilà, il suffit de demander. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a peut-être un problème.
Alors, on a beaucoup parlé des matériaux, de la structure de la maison. Vous parliez du bois, de la brique, des isolants. Est-ce qu'une maison écolo, c'est pas aussi repenser l'espace à l'intérieur de la maison? On parlait des occupants tout à l'heure. Peut-être pour que ça soit plus fonctionnel, qu'il y ait moins de pertes de chaleur, d'énergie.
Perte d'espace, enfin mieux gérer
aussi,
l'espace, peut-être, oui.
Alors, oui, comme je vous dis, on déverse tout de suite dans la technique, parce que ça nous rassure. Cette critique est aussi valable pour moi. Donc effectivement, l'habitat écologique, comme je disais, c'est ce qu'on avait appelé à la base le bioclimatisme, adapté à l'environnement. Et donc nous, on a ajouté adapté à l'usager. Quand on construit ou qu'on fait rénover, on va effectivement retravailler les espaces, notamment à l'intérieur pour, simplement mettre les ouvertures dans les pièces à vivre, etc. Donc dans la mesure du possible, parce qu'en rénovation, c'est un peu plus compliqué. Donc ça va être effectivement jouer beaucoup sur l'aménagement des pièces, leur communication entre eux. Et après, sur des aspects un petit peu techniques, on va par exemple pas mettre les pièces d'autres écartées les unes des autres, parce que ça fait des pertes de réseau et des consommations. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce qui est dérangeant dans notre métier quand on travaille avec les particuliers, c'est que finalement, à un moment donné, on leur demande « mais comment vous allez vivre chez vous ?» Et c'est une espèce d'ingérence qui n'est pas toujours très bien vécue, alors qu'on est là pour les conseiller, mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce qu'on nous pose ce type de questions.
Vous êtes obligé d'entrer dans l'intimité presque des gens ?
Oui, parfois oui.
Donc, et il y a des réticences, c'est-à-dire que les gens ont une idée de leur maison, finalement, des idées peut-être très arrêtées, et le fait de revenir sur des acquis, sur une façon de vivre, ça fait trop de bouleversements d'un coup ou
Alors, je crois que, étant donné qu'on est encore dans une niche, et puis les personnes qui viennent vers nous ont des demandes assez spécifiques, et souvent c'est des personnes qui ont déjà eu une réflexion sur leur mode de vie et qui sont prêts à faire certaines concessions ou ou vont entendre plus facilement certaines remarques. Donc dans l'habitat, la maison individuelle, c'est moins problématique, mais le vrai problème que nous on a et qu'on doit mettre en place une forme de pédagogie occupant, c'est qu'on fait du collectif pour les bailleurs sociaux, qu'on va faire des projets intégrés dans des écoquartiers. Les gens qui débarquent là ne sont pas forcément des gens sensibilisés. Et donc, on va devoir leur expliquer comment vivre, pourquoi, une fois qu'on vit dans un éco-habitat, pourquoi il ne faut pas mettre des peintures non naturelles, pourquoi il faut utiliser des produits ménagers plutôt naturels, etc.
Alors, vous parlez de peinture. J'ai la question qui fâche. Parce que j'entends beaucoup de choses sur les peintures écolo, notamment, alors, deux choses principales. Elles s'appliquent mal. Et au bout de 6 mois, en gros, faut repasser une, voire deux couches parce que ça commence à se dégrader. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces peintures écolo? Est-ce que là aussi, on est encore face à un marché de niche où il y a une offre qui est limitée et pas forcément très précise?
Ça me permet de faire une petite anecdote d'un de nos premiers projets. Je vous disais au début qu'on a un problème sur les peintures. On avait fait, nous, le souhait de mettre des peintures saines dans ce premier projet qui était un ensemble de 14 maisons. Donc ça fait un énorme chantier. Et on a cherché des artisans, des peintres en bâtiment qui pouvaient venir en fait tester ces matériaux. On a fait tester le matériau par un peintre traditionnel et effectivement, sur la fluidité, il était un petit peu traumatisé dans sa manière de travailler. C'était pas les bons gestes, c'était pas la bonne texture.
Il faut carrément un apprentissage des gestes. Enfin, les experts, les peintres en bâtiment doivent carrément réapprendre leur métier ou...
Se réadapter, oui. Parce qu'il y a vraiment une différence de fluidité. Et d'ailleurs, c'est on va dire, le principal point entre les peintures synthétiques et les naturelles. Les solvants qu'on critique tant pour leur impact sur la santé sont en fait les agents de la fluidification. Une fois que vous enlevez les solvants, pour des raisons logiques et heureusement, j'ai envie de dire, vous enlevez une certaine fluidité. Donc, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Ensuite, ça évolue. Là, je vous disais, le projet dont je vous parle, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, on trouve beaucoup plus facilement des gens qui vont vers une transition. Mais effectivement, la qualité même des peintures a évolué. C'est incroyable le bon qu'on a fait. Mais effectivement, si aujourd'hui, vous comparez de peinture une synthétique et une naturelle, vous allez, constater une différence.
D'accord. Alors, j'ai une question pour les gens qui ne sont pas dans des projets de construction, parce qu'effectivement, en construction, c'est, je dirais, plus facile d'aller vers des matériaux écologiques, de repenser la maison, même au profit de l'usager. Hein, on repart de zéro, donc c'est plus facile. En revanche, et je pense que c'est la plupart des auditeurs qui nous écoutent, quand on veut rénover sa maison, alors, quel que soit le type de rénovation, ça peut être des rénovations lourdes, plus impactantes, ou des rénovations justement de peinture. Mais quand on parle d'isolation ou des choses comme ça, quel conseil on peut donner aux auditeurs qui veulent aller vers une maison plus passive, plus respectueuse de l'environnement, mais sans tout chambouler parce qu'on est dans de la rénovation, hein.
C'est effectivement la principale question et le plus gros problème qu'on a. Les législations, les réglementations dont je vous ai parlé ne touchent que le neuf. La réglementation thermique 2012, qui est là pour généraliser la basse consommation, ne concerne finalement que 1% des logements en France, enfin des bâtiments, pardon, qui sont des bâtiments neufs. Le reste, c'est de l'existant. Nous-mêmes, en interne, on a énormément de difficultés, mais à trouver des personnes qui veulent aller assez loin. Parce que le problème de la rénovation, si on parle d'habitat individuel, voire collectif, c'est qu'il ne faut pas tuer ce qu'on appelle le gisement d'économie. Vous avez une maison, on va dire que vous avez un certain budget de rénovation. Parlons d'abord de la grosse rénovation. Vous avez une maison qui consomme beaucoup d'énergie, vous faites un pré-audit, vous vous rendez compte qu'elle fuite partout. Vous êtes peut-être tenté de mettre en place, un équipement plus performant au niveau du chauffage. Il va y avoir un changement, mais vous aurez tué le gisement d'économie parce que vous aurez gaspillé une grosse part de votre budget pour changer un point qui est finalement très secondaire. Si on fait une comparaison avec une personne, on va dire qu'on va d'abord se couvrir et ensuite réfléchir à comment on se réchauffe. C'est exactement la même manière dans l'habitat. Donc, vous avez envie de rénover, vous questionnez sur votre budget, vous avez un budget restreint, allez vers ce qui ne va pas tuer les gisements d'économie. Donc, commencez pas par les équipements, commencez pas par une pompe à chaleur, commencez par l'isolation du toit, par exemple, si c'est possible, l'isolation des murs, mais pas sur de l'équipement. Vous allez gaspiller en fait votre budget dans ce qui n'est pas le plus important.
Alors en parlant d'équipement justement, il y a beaucoup de choses qui existent. Vous parliez de pompes à chaleur, de puits canadiens, il y a énormément de choses. Alors comment on peut faire pour installer toutes ces nouvelles, on va dire nouvelles technologies en matière d'énergie par exemple?
La vraie question, ça va être laquelle choisir, quelle technologie. Et ça, je pense qu'il faut déjà aller vers une personne qui est neutre, pas forcément un fabricant, parce qu'on a, c'est vrai que les fabricants ont tendance à vanter les mérites de leurs matériaux, c'est avéré, mais voilà, c'est pas forcément le choix le plus juste. Essayer de réfléchir à quel est le meilleur choix. Et le meilleur choix, on peut le décider tout simplement avec une étude thermique. Qui va vous dire quels sont les besoins, une fois que vous aurez peut-être, je sais pas, isolé la toiture, quels sont les besoins en chauffage, et là ensuite voir dans la gamme qu'est-ce qui convient à votre mode de vie et qu'est-ce qui convient à votre budget. Parce que bon, la pompe à chaleur a été décriée et puis adulée quasiment en même temps. Il y a peut-être d'autres équipements comme un poêle à bois granule qu'on peut installer, etc. Donc aller vers une étude thermique qui va vous dire clairement de manière factuelle et indépendamment de toute l'offre vers quoi il faut que vous alliez.
Donc là aussi, pas de règles, c'est au cas par cas, on peut pas...
Au cas par cas, oui.
Quand on veut faire une étude thermique, à qui on s'adresse?
Alors vous pouvez vous adresser directement à un bureau d'études thermiques.
D'accord, donc c'est à Pignon-sur-Rulle et...
Un petit peu moins, ce qui travaille beaucoup moins pour le particulier, ou alors aller vers des personnes qui font ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, donc l'accompagnement, et qui intègrent une partie bureau d'études. Comme dans notre cas, en fait, vu qu'on a deux métiers avec les particuliers, on intègre cette partie-là. Et on ne travaille qu'avec des études thermiques parce qu'on ne peut pas choisir à la place de la personne. On peut la conseiller, mais il faut partir sur quelque chose d'un peu plus factuel. Donc.
On parle de maison écolo là depuis 20 minutes. Est-ce que on peut parler d'appartement écolo? Est-ce que vous faites du collectif aussi avec ces problématiques d'isolants, de matériaux bio?
Alors du collectif dans le neuf, oui. Et en plus intégré à des projets d'aménagement comme les écoquartiers. On est d'ailleurs actuellement sur un petit projet d'écoquartier avec en Bourgogne avec une commune très engagée. Tous ceux qui ont un syndic de copropriété vont comprendre rapidement pourquoi on a du mal à faire ça dans les appartements. C'est impossible de mettre d'accord 15, 20, 30 personnes. Simplement impossible. Et on a essayé. On a essayé de le faire, c'était sur Grenoble. C'était une petite copropriété et il fallait se mettre d'accord et ça a pris beaucoup de temps. Donc une entreprise comme nous va avoir du mal. Par contre, ceux qui veulent, qui ont un appartement, qui sont propriétaires, locataires, faites un petit peu de lobbying auprès du syndic de copropriété. Allez voir un espace info-énergie en disant est-ce que vous pouvez pas faire une intervention pour expliquer comment ça peut fonctionner. Et eux, les espaces info-énergie sont dépendants de l'ADEME qui est liée à l'État et ont plus de moyens pédagogiques qu'une entreprise pour vanter les mérites d'une rénovation. Mais ça prend du temps.
C'est possible, mais c'est difficile.
C'est long.
Dites-nous, Esra, quelle est la maison écologique que vous rêviez de construire aujourd'hui? Est-ce que vous avez des rêves fous ou vous pensez que c'est réalisable?
C'est un petit peu notre credo, l'utopie d'aujourd'hui et la réalité de demain. Donc quand on s'est lancé, c'était complètement fou. On nous a dit qu'on était fous et que ce qu'on voulait, ça ne marcherait pas. C'était avant le Grenelle. C'est marrant parce que les collectivités qui disaient ça ont changé du tout au tout après le Grenelle. Donc la maison idéale, rêvée, parfaite.
Il y a une concurrence de micros, ça prouve bien qu'on est en direct du salon Planète Durable. Des annonces sont en train de passer.
Il ne faut pas que ça casse vos rêves, Esra.
Mais on est toujours sur cette maison écolo de demain.
Oui, cette maison idéale rêvée est aussi en grande partie liée aux personnes qui sont chez nous. Le fondateur de Terracité, Jean-Philippe, est un ancien prof de biologie qui est arrivé à l'habitat par l'impact sur la biodiversité. Donc on va se poser beaucoup de questions. Notre maison rêvée et idéale à nous, une maison qui est intégrée dans son environnement, mais qui lui est plus que favorable. Donc une maison positive, mais qui utilise des matériaux qui ont un impact très très positif sur l'environnement.
Maison positive, en deux mots, vous pouvez définir.
Qui génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Et donc ça va être plutôt sur ces aspects-là. Le côté très très positif, mais positif pas seulement au niveau de l'énergie. Et le rêve fou absolu serait la maison biodégradable, dans le sens où aujourd'hui on ne se pose pas la question de la déconstruction. C'est super de construire, mais au moment de la déconstruction, qu'est-ce qu'on va faire des déchets, des détritus? Si on partait dès aujourd'hui avec des matériaux soit recyclés, soit recyclables, on pourrait d'ici 20, 30, 40 ans, à la fin du cycle de vie de notre maison, avoir un cycle de vie déconstruction et pouvoir aller reconstruire, déconstruire, etc. Ce qu'on appelle le cradle to cradle, berceau to, du berceau au berceau. Donc le fait de reconstruire et déconstruire avec le même matériau.
C'est la maison jetable là dont vous nous parlez.
Non, biodégradable, recyclable, etc. Donc là par contre c'est de la pure utopie, dans le sens où rares sont les matériaux aujourd'hui qui sont recyclables, à part les matériaux biosourcés comme la paille.
Très bien.
Merci, merci Esratat. Je rappelle que vous êtes donc responsable de la communication et du développement pour le cabinet d'architecture Terracité. On peut consulter votre site d'ailleurs, www.terracité.fr.
Oui.
Merci beaucoup Esra.
Merci à vous.
Et merci à Stéphanie Jaroux qui a animé ce débat. Stéphanie Jaroux de Féminin Bio qui nous accueille en direct sur le salon Planète Durable.